était tout rassuré en arrivant, en voyant qu'il y avait quelques voitures. On s'est dit, est-ce qu'ils vont revenir? Puis quand j'ai vu les voitures, j'ai dit à ma femme, oh mince, on n'a pas congé ce soir. Ça, c'était une plaisanterie. Le reste, c'est sérieux. Ce soir, j'aimerais qu'on soit très, très sérieux. Mais juste avant, j'aimerais qu'on soit encore plus sérieux, parce que je vais faire aussi ce soir la minute de pub. Vous voyez, c'est sérieux. Mais je ne sais pas pourquoi on ne prend jamais les pubs au sérieux. Vous avez remarqué ça? Quand il y a un film important, il y a une pub au milieu, on va faire son sandwich. Est-ce qu'on pense aux pauvres publicitaires qui s'est donné de la peine et qui aimeraient tellement qu'on regarde sa pub? Ce soir, j'aimerais faire comme pub deux petites cartes magiques. Sur la table, là-bas, où il y a les livres, vous allez trouver deux petites cartes différentes l'une de l'autre. Je commence par la première, celle où il y a le logo de notre institut, et puis notre nom, et puis notre adresse, et puis il y a même notre numéro de téléphone. Donc vous pouvez les prendre, et puis vous pouvez même nous écrire, et puis vous pouvez nous téléphoner. Tenez compte du décalage horaire entre le sud et le nord, pour ne pas nous réveiller au milieu de la nuit, mais puis nous appeler. Voilà. Mais c'est, le plus important, c'est derrière. Derrière, il y a une adresse internet et il y a un QR code. Et avec cette adresse ou ce QR code, vous pouvez accéder à notre blog. C'est-à-dire un lieu sur internet où tous les 15 jours, on met un article, en principe qui peut se lire en 5 minutes. Alors des fois, c'est un peu plus, des fois, c'est pas souvent moins, mais en gros. Et ces articles sont là pour aborder toutes sortes de sujets qui touchent à la culture de l'honneur. Donc en fait, avec ces articles, vous pouvez vous faire une petite piqûre de rappel tous les 15 jours. Vous voyez, alors vous vous inscrivez sur le blog, et puis vous allez recevoir un mail qui vous propose un livre gratuit. Alors ça, vous pouvez déjà prendre le livre gratuit, c'est sympa. C'est un livre sur le leadership et la culture de l'honneur. Et puis après, vous allez recevoir encore un ou deux mails qui disent bonjour, on s'appelle Thierry Juvet et Monique Juvet, parce qu'il y a les deux. Et puis, ça c'est pour les gens qui ne nous connaissent pas. Vous nous connaissez, donc ce mail-là, vous pouvez le mettre à la poubelle. Puis après, ça, voilà. Et puis tous les 15 jours, vous recevez un mail, c'est tout. Et puis ce mail vous dit, il y a un nouvel article, vous pouvez aller le lire. Puis si vous en ratez un, vous pouvez toujours aller dans la table des matières et puis relire en arrière. Il y a maintenant plus de 50 articles disponibles gratuitement. Vous pouvez les copier, vous pouvez les envoyer à vos amis. Si vous citez votre source, on est content. Si vous ne le faites pas, c'est votre conscience. Mais utilisez ça comme vous voulez. On a même maintenant des églises de maison qui utilisent le blog pour travailler, leur méditation, etc. Ça, c'est tout entièrement, totalement gratuit. La deuxième petite carte, elle a aussi un QR code, c'est le même que sur la première. Alors, c'est pas compliqué, mais derrière, il y en a trois autres, avec trois adresses e-mail. Ça, c'est des cours qui ont été faits, c'est des vidéos, c'est du matériel, ça a été fait en anglais, mais c'est sous-titré en français et tout le matériel est traduit en français. C'est trois cours. Il y en a un sur les relations, un sur être parent. Ça, c'est assez intéressant par rapport aux enfants. Et puis un aussi sur le leadership. Ça, c'est des cours qui ont été faits aux États-Unis. On les a traduits. Ils sont maintenant très français, très européens. Simplement, ils sont payants, ceux-là. C'est-à-dire que si vous voulez prendre ces cours, ben, il faut débourser une cinquantaine de dollars par cours. C'est chaque fois 8 vidéos, c'est du matériel, ça vaut son prix, mais ça coûte. Voilà, on n'est pas très habitué en Europe à avoir des trucs chrétiens qui coûtent. Mais enfin voilà. Alors il y a le blog, ça c'est tout gratuit, et puis les cours, ça c'est payant. Ça va ? Et puis la dernière chose, ben, c'est les livres. Il en reste quelques-uns depuis hier soir, mais je crois que ça diminue, puis on n'a pas de réserve. Donc si vous souhaitez prendre un livre, ben, tardez pas trop. Et puis si vous, il n'y en a plus, ben, vous pouvez toujours les commander à la CLC ou comme ça, ils sont disponibles aussi dans la librairie publique à Nîmes. Vous pouvez les commander et puis il n'y a pas de souci avec ça. Puis ce soir, c'est une soirée exceptionnelle. Ce sera l'unique. Alors j'ai une question. Est-ce que quelqu'un ce soir, aujourd'hui, a son anniversaire ? Vous n'êtes jamais né, vous. Est-ce que quelqu'un a son anniversaire hier ? Est-ce que quelqu'un a son anniversaire demain ? Il n'y en a pas. Ils ont quand leur anniversaire déjà ? C'est terrible. Oui, monsieur ?
Le 29 décembre.
Le 29 décembre, oui, c'est bien ça. Joyeux Noël, oui. Super. Est-ce que quelqu'un a son anniversaire cette semaine ? Chérie, je fais comment ? Le 29 décembre, au hasard. Est-ce que quelqu'un a son anniversaire le 29 décembre ? Pardon ? J'ai pas compris.
29 novembre, avant ça.
Ah ouais, mais ma femme, elle a dit 29 décembre. C'est terrible. Chérie, je suis très embêté là, hein. Est-ce que quelqu'un a son anniversaire le 29 décembre ?
Oui.
Ah, miracle, les mains ! Alors voilà un cadeau pour vous. Joyeux anniversaire, joyeux Noël. Et puis madame, vous irez en chercher un sur la table, comme ça vous aurez aussi pour le 29 novembre, d'accord ? Vous savez que le 29 novembre, c'est important, parce que c'est le lendemain de l'anniversaire de ma femme. Vous voyez, comme ça, vous pouvez tous y écrire, puisque vous allez tous prendre la petite carte. Ce sera super. Bon, chérie, tu te souviens, hein, la dame là, il faut qu'elle prenne un livre. Hein. Voilà. Voilà. Hier, on a fait tout un chemin, si vous vous souvenez. On met un peu d'humour, mais on dit des choses et puis on avance. Hein. On a parlé de la Trinité, on a parlé des relations du ciel. On a parlé de nos cultures, on a parlé de la manière dont on était imprégné par nos cultures, on a parlé de la manière dont elles se transmettent. Aujourd'hui, on aimerait parler avec vous du changement de culture. Parce que c'est bien joli de savoir qu'on a une culture. Peut-être, entre-temps, vous avez un peu réfléchi aux points forts et aux points faibles de vos cultures personnelles. Mais c'est important de parler de changement de culture. Et je parlais de choses sérieuses, parce que quand on parle de changement de culture, en fait, on parle de renouvellement de l'intelligence, selon Romains 12. Ne vous conformez pas au monde présent, c'est-à-dire celui qui m'habite, mais soyez renouvelés, transformés, renouvelés. Transformé par le renouvellement de votre intelligence. Et quand on dit renouvellement de l'intelligence, ce n'est pas uniquement l'intellect, c'est la compréhension de ce qui nous entoure. Et ce soir, j'aimerais faire deux choses. J'aimerais parler de changement de culture et puis j'aimerais donner quelques éléments de la culture du ciel. Parce que si on veut changer de culture, au moins que ce soit pour la culture du ciel. Ça ne vaut pas tellement la peine de changer pour une autre culture. Alors on va parler de changement de culture. Changer de culture, c'est acquérir une autre manière de penser, de ressentir et de se comporter. Ça veut dire que ça touche trois grands domaines de notre vie. Notre manière de penser, je vous ai parlé hier de certains points culturels que mon père m'a transmis, sa manière de penser, mais c'est plus que ça, parce que je connais des gens qui pensent très bien comme au ciel, mais ils ressentent rien de comme au ciel, et ils ne se comportent pas du tout comme au ciel. Alors c'est bien d'avoir une connaissance, mais la connaissance ne sert à rien si on veut changer de vie, si on veut être renouvelé profondément dans notre intelligence. Donc il faut qu'on acquiert une autre façon de penser, une autre façon de ressentir. Par exemple, je me sens tout le temps inférieur. Ben non, si on veut être en relation les uns avec les autres comme la Trinité, eh ben il faut qu'on apprenne à ressentir autrement. Si je me sens tout le temps inférieur, eh ben je ne peux pas être en lien avec les autres d'une manière saine. Ce n'est pas possible. Vous me direz peut-être, mais c'est la vraie humilité. Pas du tout. L'infériorité, ça n'a rien à voir avec l'humilité. L'infériorité, c'est un piège du diable. L'humilité, c'est une valeur du royaume. Il ne faut jamais confondre ces choses-là. Et puis ensuite, ça change le comportement. Ma manière de me comporter avec l'autre. Ma manière de l'encourager, ma manière de le valoriser, ma manière de me réjouir avec lui, ma manière de le soutenir, etc., etc. Alors, on va voir tout ça ce soir, et puis vendredi, on prendra quelques exemples concrets. Alors, moi j'ai une parabole pour parler du changement de culture. Jésus parlait en parabole. Vous savez pourquoi ? Vous faites quoi, là, dans cette église ? Vous savez pourquoi il parlait en parabole ? Pas du tout. Il parlait en parabole parce qu'il voulait que ses disciples soient impactés dans les deux hémisphères de leur cerveau. L'hémisphère gauche est l'hémisphère logique et de la compréhension, et l'hémisphère droit qui est l'hémisphère de l'intuition et de l'art. Et il voulait les impacter dans les deux. Alors ce soir, je vais vous parler en parabole, parce que c'est comme ça qu'on se souvient des choses. Je vous raconterai à la fin de cette parabole quelque chose qui nous est arrivé en Italie. Alors cette parabole, je suis désolé pour ceux qui l'ont déjà entendue. Hein. Bon, vous savez. Hein. Mais c'est la parabole de conduire en Angleterre. Je parle d'un changement de pensée, de ressenti et de comportement. Alors avec Monique, on va de temps en temps en Angleterre, et puis on loue des voitures, voyez. Puis la première fois, c'est ça la parabole, la première fois qu'on a loué une voiture en Angleterre. Alors c'était super sympa. La dame au guichet, à part qu'elle avait un accent british incompréhensible pour moi, mais c'était super cool parce qu'au bout d'un moment, elle nous a quand même donné les clés de la voiture, et puis elle nous a dit elle est au parking B5. Alors on a été au parking B5 avec nos valises, roll la valise, B5, on a ouvert la voiture avec la zapette de la clé, là, et puis j'ai ouvert la portière. Et je me suis rendu compte qu'il m'avait loué une voiture sans volant. C'est pour ça qu'elle n'était pas chère. Sans volant. Et puis c'est là où on a réalisé que nos amis anglais, ils mettent le volant de l'autre côté, vous voyez. Alors on a tous les deux changé de côté. Et puis je me suis installé. Et puis là, j'ai commencé à réaliser qu'ils avaient vraiment fait des voitures à l'envers. Le machin pour les vitesses, il est là. Moi, j'ai l'habitude qu'il soit là. Peut-être vous aussi, hein. Là. La clé de contact, ben, on ne peut pas la mettre comme d'habitude. Quand on veut regarder derrière, moi, je voulais régler le rétroviseur, alors je fais ce geste. Mais il n'y avait pas de rétroviseur. Parce qu'il est là. Donc quand on regarde derrière, il faut regarder en haut à gauche et pas en haut à droite. Bref, tout est à l'envers. Sauf une chose. Les pédales. Ça, ils sont cool, ils ont laissé les pédales dans le bon sens. Déjà au niveau changement, c'est déjà pas mal. Je vous promets, c'est pas si vous avez déjà fait cette expérience. Moi, c'était la première fois, mais c'est vraiment surprenant. Donc, on est là, dans la voiture, on a réglé les choses, on met le contact,
on s'est installé au volant, tout va bien, on recule, on sort du parking, on tombe sur le premier giratoire. Alors là, ils sont cool aussi, parce qu'ils ont mis des flèches par terre. Je pense qu'ils en avaient marre de ramasser les débris de phare. Alors ils ont mis des flèches par terre qui nous indiquent qu'il faut prendre le giratoire à gauche. Vous voyez ? Alors on tourne à gauche dans le giratoire et on sort du giratoire à gauche de la route. Et à partir de là, le ministère de Monique commence. À gauche, à gauche, voyez, c'est la louange de Monique. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Alors c'est au début c'est bien, après ça lasse un peu, mais c'est nécessaire. Alors on prend la route tranquillement et puis on arrive au deuxième giratoire et là il n'y a plus de flèche. Alors c'est là où on se dit à gauche. Parce qu'on a entendu, vous voyez, on connaît le nouveau texte biblique, il y a un seul chapitre, même pas, il y a un seul verset, c'est à gauche. C'est comme ça. Alors on passe à gauche, on sort, ça va bien, on continue sur la route principale, et puis on est près de l'aéroport, donc il y a l'autoroute pas loin. On se dit on va monter sur l'autoroute parce que c'est là qu'on doit aller. On monte sur l'autoroute, ouf, ça s'est bien passé, je ne me suis pas trompé de sens. Parce que, ben oui, ce ne serait pas si compliqué que ça. Et je me dis, tu vas rouler tranquille le temps de t'habituer. Alors je roule tranquille. Ici, vous ne savez pas trop hein, rouler tranquille, j'ai remarqué. C'est ça. Ici, ça roule ou ça ne roule pas. Hein, c'est on-off, en gros. Hein. J'ai même remarqué, ça c'est la culture, je suis au feu rouge, ça devient vert, je pars. Et pouf, il y a trois piétons qui traversent. C'est rouge pour eux, c'est vert pour moi. Alors là, j'ai compris qu'à Nîmes, les piétons, ça marche à l'envers. Quand c'est rouge, ils peuvent passer, quand c'est vert, ils ne passent pas. Et puis moi, c'est quand c'est rouge, je ne passe pas, puis quand c'est vert, ça passe, puis comme ça, ben, enfin bref, c'est la culture, encore une fois. Alors on est là, sur l'autoroute, relax, et je commence à être fier de moi, parce que ça roule. Et puis tout d'un coup, derrière, il y a un type qui fait les grands phares. Puis je me dis, mais il est pressé celui-là, il a qu'à dépasser, on est sur une autoroute. Oui, mais en Angleterre, quand on veut rouler peinard, comme on dit chez nous, vous dites peinard, oui. Tranquille, ben, il ne faut pas rouler à droite. Parce que la droite, c'est là qui dépasse. Il faut rouler à gauche. Alors, tout penaud, on met le signophile et puis on repart à gauche pour rouler peinard. Vous comprenez ? On change de système de pensée, de système de ressenti et de comportement. On change de culture. Vous saisissez ? C'est l'exemple. Alors après, on sort de l'autoroute et on va sur la route nationale. Et là, ça se passe pas trop mal, jusqu'à ce qu'il y ait ce gros camion là-bas qui arrive en sens inverse. On doit complètement changer de perspective. Ça a l'air idiot, hein, comme ça. Il faut l'avoir expérimenté. Mais ce camion là-bas, ma tête sait qu'il passe. Mais tout mon corps me dit ça ne passe pas. Vous saisissez ? Pourtant, c'est une grande route. Et ouf, ça passe. Alors on est rassuré. Et puis on intègre petit à petit la nouvelle perspective. Et ça commence à aller mieux. Jusqu'à ce que votre épouse, qui aime les petites fleurs, je vous ai dit hier, voit que sur la carte, il y a une route plus courte pour aller là où on va et qui passe à travers du vert sur la carte. Vous voyez ? Une tache verte. Donc, dès qu'il y a du vert, ça l'attire. Alors elle me dit, on pourrait passer par là, ce serait super. Alors en fait, c'est la route qui traverse un bout de parc national. C'est chouette. Alors on s'embraye. Le problème, c'est que la route, elle est un peu comme ça.
n'est plus très large. Et puis, plus on avance dans le parc, et puis elle devient comme ça. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais les Anglais, chaque fois qu'ils trouvent un caillou, ils font un mur avec. Au bord de la route, si possible. Des deux côtés. Et puis, on continue d'avancer, puis ça devient comme ça. Et puis, c'est là où il y en a un en face. Alors, on a vu que quelques mètres en arrière, il y avait une place d'évitement. Alors, tout fier, on met la marche arrière. Il faut la chercher un moment, hein, parce qu'elle n'est pas tout à fait du bon côté. Et puis, je recule, je me gare, et je suis très fier de moi. Et l'Anglais, il passe, et puis il me fusille du regard. Je me dis, mais celui-là, quand même, il pourrait dire merci, j'ai reculé. Et tout à coup, je réalise, je me suis rangé à droite. Parce que le stress ramène tous les vieux comportements. Le stress ramène tous les vieux ressentis. Le stress ramène toutes les vieilles manières de penser. Et c'est exactement la même chose quand on veut changer de culture. On doit changer profondément quelque chose. Monique disait, c'est pas difficile, mais c'est un travail à prendre au sérieux parce qu'il vient toucher au fond de nous. Il vient toucher à nos sécurités. Au moment où j'ai abandonné mes 3 salaires à la banque, j'ai touché à ma sécurité. Au moment où je pense que je vais pouvoir élever le ministère de mon frère pasteur, parce qu'il est juste merveilleux, eh bien, il faut qu'au fond de moi, mon insécurité soit bannie. Pourquoi ? Parce que autrement, en l'élevant, je crains, moi, d'être abaissé. Vous saisissez ? Changer complètement. Et on a nos rechutes, parce qu'il faut croiser sur une route comme ça. Ou bien on a nos rechutes parce qu'on tombe sur un machin comme ça, et ça, c'est authentique. Le reste aussi, d'ailleurs. C'est un giratoire de giratoire. Et je crois qu'il n'y a que les Anglais qui savent faire ça. À gauche. Voyez, on arrive, premier giratoire à gauche, puis toc, un deuxième, toc, on est dans un deux, et puis toc, et on tourne à gauche, et on est à gauche, et tout est à gauche, et ceux qui viennent de droite ont la priorité, et ça commence à être le stress parce qu'il y a beaucoup de circulation, et paf, de nouveau, on a nos vieux schémas. Le changement de culture, c'est un changement qui nous touche au plus profond de nous-mêmes. Ça veut dire que ça vient ébranler nos certitudes. Comme la plupart d'entre vous, j'ai eu mon permis de conduire à 18 ans. J'ai fait, je pense, des centaines de milliers de kilomètres. J'ai acquis des réflexes. Et tout à coup, il faut que je change. Et ça, c'est pas simple. Mais si nous voulons refléter la Trinité sur la Terre, il faut que nous changions. Alors, il y a des gens qui trichent. Il y a des gens, ils vont en Angleterre et puis ils prennent un taxi. Vous voyez ? Il s'installe sur la banquette arrière. Et puis, il laisse le chauffeur au volant. Et puis, il rentre à la maison. Et puis, il dit, j'ai été en Angleterre et j'ai roulé à gauche. Je sais rouler à gauche. Tu parles. Non. Tu ne sais pas. Je te promets que tu ne sais pas. Tu n'as pas croisé le camion. T'as pas eu le gars sur le petit chemin. T'as pas eu les giratoires. T'as pas eu le giratoire d'un giratoire. T'as rien eu du tout. Ça, c'est les chrétiens qui vont à une conférence sur la culture de l'honneur et puis ils prennent 3 phrases, ils trouvent ça super et puis ils disent, j'ai compris. Mais ils n'ont rien vécu.
ils n'ont rien changé. Ils n'ont pas essayé. Ils n'ont pas changé leur logique. Ils n'ont pas changé leur manière de penser. Ils n'ont pas changé leur manière de se comporter. Ils n'ont pas changé leur ressenti. Et comment on peut faire pour changer ça? Alors j'ai encore une histoire. Je vous ai dit que ça serait sérieux ce soir. J'ai encore une histoire, et là aussi je suis désolé pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais je ne pense pas que je vous ai déjà parlé de ma tante Doris. Ma tante Doris, il y a quelqu'un qui s'appelle Doris ici. C'est arrivé une fois, c'était un peu drôle. C'est son vrai nom à ma tante Doris, elle a vraiment existé. À part que ce n'était pas du tout ma tante. C'était une amie de mes parents, mais on l'appelait tante Doris. Alors il faut que je vous raconte un peu ma vie. Ça c'est passionnant. J'ai grandi dans une famille modeste. Je dirais même très modeste. Mon père avait un petit salaire, ma maman ne travaillait pas à l'extérieur, elle s'occupait de ses enfants, et on habitait un petit appartement au cœur de Genève. Genève est une ville très chère, et on habitait au 4e étage, sans ascenseur, sans chauffage central, et avec de l'eau chaude uniquement à la salle de bain. On était, mon frère et moi, dans une toute petite pièce qui était tellement petite qu'on avait mis un lit superposé, et puis une table très étroite, et c'est tout ce qu'on pouvait mettre dans cette pièce. J'ai eu, mais peut-être que pour beaucoup d'entre vous c'est la même chose, hein, je ne suis pas en train de me vanter, j'ai eu mon premier pantalon neuf à l'âge de 12 ans, et je m'en souviens encore. Mon papa avait une vieille deux chevaux dont il était très fier. Et puis ça c'est le génie français. Moi, je dis toujours, vous êtes un peuple de génies. Vous avez inventé tellement de choses. Et c'est génial. Personne n'a osé faire ça. Il n'y a que vous pour faire un truc pareil. Et ça fonctionne. Et c'est génial. On avait ça. Et puis mon père, qui était un modeste employé de notre compagnie d'aviation, il avait un don, c'est d'être en lien avec toutes sortes de gens de tous les milieux. Et en particulier, il avait comme ami ma tante Doris et mon oncle Pierre. C'était des mari et femme. Et la voiture de ma tante Doris, c'était ça. Ça, c'est la voiture de tante Doris. Celle d'oncle Pierre, je ne l'ai jamais vue, elle était dans un garage fermé. Et nous, on habitait un petit appartement, je vous l'ai dit, alors je vous ai mis une petite photo, mais j'ai fait exprès, elle est toute petite, vous ne voyez rien, mais je fais, parce que voilà, mais c'est vrai que là, c'est moi et mon frère en train de manger dans la cuisine, c'est pas important, c'est juste pour vous dire que la maison de ma tante Doris, je n'ai pas retrouvé la vraie, j'aurais voulu aller photographier la vraie, je sais où elle est, mais aujourd'hui, il y a des immeubles tout autour et c'est compliqué, mais pour moi, petit garçon, la maison de ma tante Doris, ça ressemblait à ça. Vous voyez? Et 2 à 3 fois par année, on était invités chez tante Doris. Alors mon père nous mettait dans la deux chevaux avec maman, mon frère, moi, et puis on fonçait comme ça, c'était à peu près 1h30 de route, et puis on arrivait chez tante Doris, il y avait un portail, il y avait une allée en gravier, il y avait la maison, et puis mon père mettait la deux chevaux derrière la Mercedes de tante Doris. Et à ce moment-là, sur le perron de la maison, apparaissait tante Doris. Tante Doris, c'est mes yeux d'enfant, hein, c'était une grande femme blonde élancée, vêtue d'une robe magnifique avec des bijoux. Et puis il y avait une autre petite porte qu'on appelait la porte de service. Et à ce moment-là, de la porte de service, il y avait les deux bonnes qui apparaissaient. Et puis elles venaient pour nous ouvrir les portières et puis pour nous prendre nos bagages. Voyez, moi, le gamin de la ville de Genève, j'arrivais chez tante Doris. Et puis, on montait les marches, et puis on passait la grande porte, et puis on entrait dans un hall d'entrée, je le vois encore,
avec un immense escalier en bois, avec un lustre en cristal et puis des tapis d'Orient. Et je me souviens encore, et je le ressens encore aujourd'hui, quand j'entrais dans la maison de Tante Doris, je me redressais. J'étais plus le même. J'étais devenu l'ami de Tante Doris. Je captais par tous les pores de mon être l'atmosphère de cette maison. Et puis on passait à table. Et puis on était servi dans des belles assiettes avec des verres en cristal. Et puis, vous savez, d'habitude, les parents ils disent aux enfants, tiens-toi droit à table. Enfin, on faisait ça à l'époque, je ne sais pas si on le dit encore aujourd'hui. Il n'y avait pas besoin de nous le dire. Mon frère et moi, on était, mais... Et puis, il y avait toujours les deux bonnes. Il y en avait une, je me souviens, elle s'appelait Amparo. Elle venait des Philippines. Et elle disait, Monsieur Thierry, encore un peu de coca? Nous, on n'avait jamais de coca à la maison, on buvait de l'eau. Alors, Monsieur Thierry disait, avec plaisir. Ça, c'était chez Tante Doris. Et il y a quelque chose en moi qui s'imbibait de l'atmosphère, au point que quand on quittait chez Tante Doris, pendant plusieurs jours, j'étais encore le prince de la maison de Tante Doris. Vous comprenez? Eh bien, si je vous raconte ça, c'est parce que c'est la même chose avec le royaume de Dieu. Il y a des chrétiens, ce n'est pas un jugement ce que je vais dire, il y a des chrétiens qui croient en Jésus, et c'est très bien, et qui ont acquis le salut, et c'est très bien. Ils ont parcouru le chemin caillouteux, et ils sont arrivés à la porte étroite. Vous voyez? Et puis ils sont à la porte, et puis en réalité, la porte est ouverte, et puis ils sont juste entrés, puis maintenant, ils sont coincés dans la porte. Parce qu'ils n'ont pas encore compris qu'une porte, c'est fait pour aller de l'autre côté. Alors, non seulement ils sont coincés dans la porte, mais à partir de là, ils essayent d'évangéliser. Ils disent, « Eh les gars, venez avec nous, vous coincez dans la porte, c'est super !» Mais ils ne sont pas entrés de l'autre côté. Ils ne se sont pas imbibés de l'atmosphère du royaume de Dieu. Ils n'ont pas pris les principes du royaume de Dieu. Par exemple, il y a du coca à boire. Par exemple, il y a un tapis d'Orient. Alors, il faut qu'on apprenne à aller chercher de l'autre côté la culture qu'il y a dans le royaume pour que quand on rentre à la maison, on soit porteur de cette culture. Vous saisissez? C'est important qu'on apprenne à explorer ce royaume parce qu'autrement, on ne va jamais pouvoir changer notre culture. Je pense que mes séjours chez Tante Doris m'ont façonné. Une partie de mon être est formatée par ces expériences-là. Et je ne suis pas le même que si je n'avais jamais pu aller chez Tante Doris. Alors il nous faut absolument aller chercher de l'autre côté ce que j'appelle la logique du royaume de Dieu, qui n'est pas la même que la nôtre. Ma logique à moi, c'était « on vit pauvrement, chichement ». Ma logique à moi, c'était « le coca, c'est trop cher ». Ma logique à moi, c'était « personne d'important ne peut s'intéresser à moi. » Alors que la logique chez Tante Doris, c'était « il y a du coca. Tu es un petit garçon charmant. » Tante Doris nous aimait beaucoup. Elle nous faisait plein de compliments.
La logique n'est pas la même. Alors il faut aller chercher la logique du royaume de Dieu, il faut aller chercher surtout la logique relationnelle du royaume de Dieu. Et j'aimerais qu'on regarde quelques principes de la logique relationnelle du royaume de Dieu ensemble ce soir, pour que notre intelligence soit renouvelée. Alors je vais commencer par un premier élément, j'en ai plusieurs, je pense qu'on aura le temps de les voir ensemble, et c'est bien. Quand vous allez au magasin d'alimentation et que vous allez acheter une bouteille d'huile, d'eau, de vin, de tout ce que vous voulez, ça m'est égal. Est-ce que vous choisissez une bouteille pleine ou une bouteille vide ? Pleine. Vous êtes donc normaux. Hein ? Ah ben voilà, il y a une bouteille là.
Fantastique.
Bon, elle n'est pas très bien pour mon exemple, cette bouteille. Tu vois ? Parce que cette bouteille, elle est presque dans la logique du royaume de Dieu. Quand vous choisissez une bouteille pleine, elle est pleine comment ? Elle est pleine jusque-là. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut surtout pas perdre du liquide. Il ne faut surtout pas que ça déborde. Sinon, ça fait désordre. Ça fait tâche. C'est pas pratique. Vous êtes d'accord ?
Surtout si c'est de l'huile.
Dans le royaume de Dieu, c'est plein quand ça déborde. Sur notre terre, c'est plein avant que ça déborde. Parce qu'on veut contrôler. Parce qu'on veut maîtriser. Dans le royaume de Dieu, on ne cherche pas à maîtriser et à contrôler. Ce qu'on veut, c'est remplir, remplir, remplir jusqu'à ce que ça déborde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toute la grâce de Dieu, toute la bénédiction de Dieu, tout l'amour de Dieu pour moi, je veux m'en remplir. Pourquoi ? Parce que mon seul but, c'est que ça déborde sur les autres. Ou bien si j'ai du talent, parce que ça arrive, dans certains domaines on a du talent, mon seul but, c'est que le talent multiplie pour qu'on puisse en donner aux autres. C'est ça la logique du royaume de Dieu. C'est la multiplication. La logique de notre monde, c'est les additions et les soustractions. J'en ai plus que toi, t'en as moins que moi. Si j'en prends moins, t'en auras plus. Si t'en as plus, t'en auras moins. Vous saisissez ? Les plus et les moins. La logique du royaume de Dieu, c'est la multiplication parce que ça déborde. Et la logique du diable, c'est la division. On a mis les quatre opérations, c'est bon. Dans mes relations, je veux déborder de toutes mes compétences, mes capacités, mes dons en faveur des autres. Et je me réjouis, je vous regarde vous parce que pas de chance d'être tombé dans mon regard, ça va, vous supportez bien. Hein? Je veux me réjouir au moment où lui, il va me dépasser. Ah ouais, ça c'est très chrétien, ouais. Mais quand pour de vrai ça arrive ? Vous savez, vous êtes chrétien depuis 35 ans. Et puis, il y a un don spirituel que vous désirez depuis 35 ans. Vous savez ça ? Il y a quelque chose, vous dites au Seigneur depuis 35 ans, Seigneur, ça c'est le rêve de ma vie spirituelle. J'aimerais ça. Puis vous êtes au culte tous les dimanches depuis 35 ans. Et puis il y a ce nouveau converti qui arrive. Il est venu trois fois au culte, il ne comprend rien. Il mélange Abraham et Moïse. Puis il est assis à côté de vous. Puis tout d'un coup, vous réalisez que ce que vous désirez depuis 35 ans, lui, il l'a reçu. On réagit comment ? C'est plein quand ça déborde. Je veux me réjouir de ce que l'autre reçoit et je veux contribuer à lui donner le maximum, même s'il me dépasse. Ça, c'est le problème des pasteurs quand on a un stagiaire.
Il y a des pasteurs qui rient.
Mais des fois, on a des stagiaires, on forme le stagiaire. Puis il est là pour un an, deux ans. Mais au bout de six mois, il est meilleur que vous. Comment je vis ça? C'est plein quand ça déborde. Ça veut dire que j'ai pu lui transmettre tout ce que j'avais et puis que lui, il est déjà en train de faire fructifier pour pouvoir déborder sur les autres, qui eux-mêmes vont faire fructifier pour déborder sur les autres. Et moi, je vais devenir quoi? Un serviteur inutile. Mais c'est OK. Ça, c'est la logique du royaume. C'est plein quand ça déborde. Deuxième point de la logique du royaume qu'on connaît tous, c'est biblique, hein, ça je vous promets. On n'a pas encore ouvert vraiment la Bible ce soir, mais tout ça c'est in the book. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Vous connaissez ça? Mais ça c'est pas dans notre logique à nous. C'est bien d'être premier, mais on se bat un peu pour ça. Mais Jésus nous a dit, non. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Ça va avec la responsabilité aussi. Il y a des prophètes qui ont dit, attention vous les pasteurs, vous avez une grosse responsabilité. C'est Jésus qui a dit, quand tu es invité quelque part, mais pas tout au fond. Vaut mieux pour toi qu'on vienne te chercher pour te mettre devant, plutôt que de te mettre devant, puis qu'on vienne te chercher pour te mettre derrière. Mais ça, c'est aussi dans ma manière de regarder les autres. De nouveau, ce n'est pas de la fausse modestie. C'est juste qu'on veut se réjouir du renversement des valeurs. C'est beaucoup plus simple, parce qu'il n'y a plus de compétition, il n'y a plus de comparaison. Vous me direz, il y en a qui vont essayer d'être les derniers pour être les premiers, mais ça ne va pas marcher. À mon avis, il y aura un bug là. Ah oui, celle-ci. Dans le royaume de Dieu, la créativité n'est pas à contrôler. Alors, je sais que chez vous, ce n'est pas trop votre problème, si j'ai bien compris. Mais je connais tellement d'églises où dès qu'il y a un peu de créativité, il faut absolument la contrôler. Parce que quand même, il y a des choses qui nous dépassent. Mais dans le royaume de Dieu, la créativité n'est pas à contrôler. Et si mon frère ou ma sœur a de la créativité parce que l'Esprit Saint est en train de l'inspirer et qu'il se passe quelque chose, je n'ai pas à le contrôler. Au contraire, je vais me réjouir avec lui. Ah, il fait quelque chose que j'aurais toujours voulu faire. Alléluia, Seigneur, tu as donné à ton corps ce dont je rêve depuis des années. Tu ne l'as pas donné à moi, tu l'as donné à nous. Parce qu'on est, comme on disait cet après-midi, un peuple. On n'est pas une somme d'individualité. On n'est pas des chrétiens fusées, tous alignés les uns à côté des autres, sans connexion, tous dirigés vers le ciel, et on attend le départ, et on se dit, c'est moi qui ai la plus grosse fusée, c'est moi qui irai le plus vite en haut. Non, on est un peuple. On a une joie collective. On a un salut collectif. Bien sûr que c'est mon salut, c'est ma foi, mais ma foi n'est rien sans la foi de l'Église. Essayez d'être chrétien tout seul. Ça va être compliqué pour obéir au plus grand des commandements d'aimer son prochain. La créativité n'est pas à contrôler. La créativité, c'est quelque chose qui est donné par notre Dieu trinitaire. Regardez la création. Est-ce qu'il s'est contrôlé? Encore une fois, je n'ai pas mis d'image, mais pensez à certains animaux. Pensez à certaines plantes. Nous, elles nous paraissent normales, on est habitués. Mais imaginez un martien qui débarque, puis qui regarde ça. C'est complètement dingue. Dans l'Église, la créativité aussi pour ce monde. Ah oui, ce ciel est bien. Dans le royaume de Dieu, on dit, pour être grand, il faut être serviteur. Vous vous souvenez, là, la maman des fils de Zébédée, hein? Cette épouvantable dame qui a dit à Jésus, est-ce que tu peux réserver le siège de droite et le siège de gauche à côté de ton trône, là, pour mes deux cocos? Ils sont super. J'aimerais vous dire deux choses. La première, c'est que cette femme, je pense, elle est la première à avoir vraiment compris quelque chose. Parce que juste avant, dans le texte, Jésus parle de sa mort et de sa résurrection, et de sa gloire. Et elle dit, hey, dis donc, tu ne veux pas me garder une place là? Elle a pigé. Ce n'est pas juste de l'orgueil, ce n'est pas juste une maman qui veut une belle carrière pour ses enfants. C'est une femme qui a compris. Puis la deuxième chose, c'est que Jésus ne lui dit pas « tu as tort ». Jésus ne lui dit pas « c'est pas bien ». C'est les disciples qui disent ça. Pourquoi? Parce qu'eux, ils veulent contrôler. Parce qu'ils n'ont pas encore compris que les premiers seront les derniers. Jésus lui dit « vous voulez être grand ? Super. Je vais vous montrer comment c'est dans le royaume. Tu veux être grand, sois serviteur. » Et moi, je vous dis, frères et sœurs, plus le Seigneur vous donne un ministère important, plus le Seigneur vient vous chercher, plus le Seigneur vous donne des dons, et il en donne à chacun, plus vous devez les mettre au service des autres. Et non pas à votre propre service. Conduire à gauche. Et là, on a les vieux réflexes. Là, on a les vieux réflexes. Quand je joue la guitare, je joue pour qui? Je joue parce que je veux servir la louange de l'Église. Et non pas pour leur montrer que j'ai appris à faire un do septième diminué. Même si c'est sympa de mettre le do septième diminué, c'est cool. J'aime beaucoup écouter les musiciens de jazz. On en avait cet après-midi en ville. Ils sont tout le temps en train de s'écouter l'un l'autre. Et tout ce qu'ils mettent comme note est au service de l'ensemble. Et de temps en temps, il y a un solo. Ok. Mais globalement, ils sont au service des autres. Si tu veux être grand, il te faut être serviteur. Ah oui, celle-ci, elle est bien aussi. Dans le royaume de Dieu, il faut mourir pour vivre. Mais ça, ça va à l'encontre de notre instinct de survie. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tous aller se jeter par la fenêtre. Hein? On est d'accord? Ça, je dis, attends, je vais dire dans le micro qu'elle a. Je dis bien, il ne faut pas aller tous se jeter par la fenêtre. Mais si je veux vivre, il y a des choses qui en moi doivent mourir. Si je veux changer de culture, il faut que ma culture actuelle meure. Je ne peux pas avoir les deux cultures en même temps. Et puis le dimanche, j'en sors une, et puis le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je sors l'autre. Ça ne marche pas. Ce n'est pas la vie, ça. Si on veut vivre, il faut que les choses meurent. Est-ce que je suis d'accord de laisser mourir, hier je vous disais, mes croyances,
mes traditions, mes coutumes, mes habitudes, mes convictions. Est-ce que je suis prêt à laisser mourir ça pour pouvoir vivre avec mes frères et sœurs une nouvelle culture? Et quand je sers dans le royaume de Dieu, je sers sans infériorité. C'est pas parce que je me mets à votre service que je dois me sentir inférieur. Mais dans notre monde, c'est comme ça que ça marche. Du moment que t'es serviteur, t'es inférieur. Pas dans le royaume. Plus t'es serviteur, plus t'es grand. Donc je peux servir sans infériorité. Je peux servir sans cette petite amertume en moi qui dit « Ouais, c'est toujours moi qui fais ça. » Oui, l'exemple du lavement des pieds. Ça, c'est très important. Vous vous souvenez de l'histoire? Vous savez comment le texte dit les choses? Jésus, sachant d'où il venait et où il allait, mit le comble à son amour pour eux. Jésus n'est pas dans l'infériorité. Il sait d'où il vient. Et puis la maison de Tandori, c'est de la rigolade à côté d'où il vient. Et il sait où il va. Et il retourne dans la maison de son père. Et il est le roi. Et il le sait. Et il met le comble à son amour et il lave les pieds de ses disciples. Ce n'est pas pour autant qu'il a posé sa royauté. Ce n'est pas pour autant qu'il a posé qui il est. Il est clair avec ça. Servir sans infériorité. Mettre mon ministère à votre service sans pour autant me rabaisser. C'est tellement plus simple et tellement plus agréable. Et le corollaire, on peut être leader sans supériorité. Ben oui, dans le corps du Christ, il faut qu'il y ait des leaders. Ça, c'est un truc qui m'a toujours un peu fasciné. Alors, je ne sais pas ce que ça donne en France, mais quand j'en parle en Suisse, on se comprend. Mais j'essaye. Parce que là, on n'a pas la même culture. L'Église, vous, moi, on va tous en direction d'un royaume. Vous êtes d'accord? Un royaume avec un roi. Un roi qui sera quoi? Le roi du royaume. Vous êtes d'accord? Et tout ce chemin, on le fait en baignant nos leaders. C'est-à-dire qu'on veut un système tellement démocratique, qu'il faut que personne dépasse. Alors on s'entraîne pour un royaume avec un roi en n'ayant personne qui dépasse. Alors chez nous ça parle, chez vous je ne sais pas. Mais c'est normal qu'il y ait des leaders. C'est normal qu'il y ait des chefs. Dans toutes les constructions humaines, il faut ça. Imaginez une équipe de pompiers qui n'a pas de chef. Et les gars, on va discuter pour savoir où on branche la lance. Waouh, ça brûle fort, hein, faudrait quand même qu'on s'y mette. Non, il faut des chefs. C'est évident. Le problème, c'est que le diable a pris la notion de chef et il l'a transformée en tyrannie. Il l'a transformé en domination. Il l'a transformé en supériorité. Il l'a transformé en écraser l'autre. Du coup, on n'a plus envie d'avoir des chefs. Mais on va vers un royaume. Et il nous est dit dans la Bible qu'il y a des gens qui régneront sur une petite ville, 20 villes. Moi, je ne comprends rien à l'eschatologie. Moi, je n'essaie pas trop de chercher parce que ça me fait mal à la tête. Puis, on verra bien. Mais ce que je comprends en tout cas, c'est qu'il va y avoir toute une institution. Il va y avoir toute une combine. Et on nous dit que les martyrs, ils auront des couronnes. Puis moi, je ne suis pas un martyr. Alors, je n'aurai pas une couronne de martyr. Ce n'est pas un problème. Et puis, je n'ai pas tellement envie d'être un martyr. Je ne sais pas vous, mais... On peut l'idée sans supériorité. Ça, c'est le royaume. On prend la responsabilité, parce que c'en est une, et on l'exerce au service de ceux dont on est les leaders, pour qu'ils grandissent. Mais on est leader. Être au service, ça ne veut pas dire que c'est eux qui vont me dire ce que moi je dois faire. C'est pas ça, être au service. Au service, c'est que je vais me remplir de la grâce, de l'amour, de la présence de Dieu, de l'atmosphère du château. Et avec cette atmosphère-là, sachant d'où je viens et où je vais pouvoir servir sans risque. Je continue avec la logique du royaume. Ça, c'est très, très important. Dans la logique du royaume, la paix n'est pas une absence, mais c'est la présence de quelqu'un. Dans notre logique à nous, la paix, c'est l'absence de guerre, de bruit, de conflit. On appelle ça la paix. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas une absence. C'est la présence de la paix personnifiée. Notre Seigneur de paix. Alors, avec la logique de ce monde, on cherche à éviter tous les désaccords, tous les conflits, parce qu'on veut être en paix. Mais non, on peut ne pas être d'accord. Ce n'est pas un problème de ne pas être d'accord. À ce moment-là, on va chercher non pas à étouffer la différence, mais on va chercher la présence de celui qui est la paix. Et on va chercher comment on peut cheminer ensemble en n'étant pas d'accord. Et il y a deux possibilités, j'en vois pas d'autres. La première, on va trouver une idée commune, on va faire marcher notre créativité, on va peut-être faire des concessions, on va peut-être trouver ce qu'on appelle un compromis ou un consensus, et on va cheminer ensemble. La deuxième possibilité, je fais court, vous y réfléchirez, hein, sur chacun on pourrait s'arrêter un moment. La deuxième possibilité, c'est qu'on va choisir l'idée d'un des deux et l'autre va se mettre au service de cette idée. Si je ne suis pas d'accord avec toi, je peux dire, je choisis ton idée et je vais mettre toute ma compétence au service de ton idée. Ça, c'est la logique du royaume. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas besoin d'avoir raison. Quand on veut avoir raison, on a quitté la logique du royaume. On roule à droite. Je n'ai pas besoin d'avoir raison. Ce qui est important, c'est qu'ensemble, on démontre les relations de la Trinité. C'est tout. Et les relations de la Trinité, c'est toute la logique que je vous ai montrée avant, y compris celle-là. La paix, c'est la présence. La paix, la présence, c'est un apaisement, mais c'est aussi une arme offensive. Regardez Romains 16, 20, ce sera le verset du soir. Celui qu'on prend le temps de lire, les autres, on ne les a pas lus, ils sont compris dans le prix. Écoutez bien ça. C'est tellement surprenant quand on lit. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Le Dieu de la paix écrasera Satan sous vos pieds. La paix, c'est une arme offensive. Parce que c'est la présence de Jésus. Avec nous, il demeure en nous comme nous demeurons en lui. À partir de là, je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je sais où je vais. J'ai plus besoin d'avoir raison. Je peux exercer mon ministère dans la liberté. Je peux être à votre service. Je peux être votre chef sans vous écraser. Je peux être votre serviteur sans être dans l'infériorité. Ça, c'est la logique du royaume. C'est ça, rouler à gauche. Alors ça, l'ennemi, il n'aime pas. Quand on commence à vivre comme ça, l'ennemi, il tremble. La paix se libère sur les gens et sur les maisons. Quand vous entrez dans une maison, dites que la paix soit sur cette maison. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait plus de conflit. Ça veut dire que la présence offensive et apaisante du Dieu de paix soit sur cette maison. Que l'ennemi fuit et que le Dieu de paix règne. Ça, c'est la logique du royaume. Moi, c'est cette paix-là que je veux avec mes frères et mes sœurs. C'est pas la paix où on fait semblant d'être d'accord. Ce n'est pas la paix où on met les problèmes sous le tapis comme un éléphant. Vous savez, dans votre salon, dans votre famille, il y a des conflits. Puis quand il y a des visites, on met le tapis sur les conflits. Ça fait une grosse bosse au milieu du salon. Puis on croit que personne ne le voit. Mais en fait, on le voit très bien. La dernière chose à propos de la présence et de la logique du royaume... c'est que la présence surpasse les principes. Parce que notre royaume a un roi, j'explique. Si je veux une foi fondée sur des principes, sur mes principes, c'est comme si je voulais un royaume sans roi. C'est comme si je voulais que mes principes gagnent. C'est comme si je voulais défendre mes principes. Mais on n'a pas à défendre des principes. On a au nom de la présence à écraser l'ennemi qui veut faire de nos relations un champ de bataille et un champ de perte d'énergie et un champ où on se fait du mal et un champ où on se limite les uns les autres. Un champ où on fait bien attention que personne ne me dépasse. Ou au contraire, un champ où je fais bien attention d'être toujours le plus petit. Mes frères et sœurs, d'être toujours le plus petit, c'est une belle manière de prendre son talent et de l'enterrer. Dans un linge. C'est-à-dire dans le manteau mortuaire. Non. On est tous appelés à grandir et à se faire grandir les uns les autres. C'est ça, la culture de l'honneur, les principes de la culture de l'honneur. C'est ça, le trésor de la maison de Tante Doris. C'est ça, rouler à gauche. C'est ça, changer tout ce qui me tient là dans mes tripes. Alors que depuis tellement d'années, je suis persuadé qu'il faut que je défende cette idée. Le Dieu de paix écrasera l'ennemi. J'ai rien à défendre. Juste rechercher cette véritable relation avec mes frères et mes sœurs. Et alors ça a des conséquences. Et alors ça commence à changer l'atmosphère. Et alors on voit dans l'église l'atmosphère qui change. Alors on voit ma manière d'être en relation avec mes voisins qui change. Alors on voit des choses qui changent. On voit des miracles. Alors tout à coup on a des voisins qui s'intéressaient à rien du tout, qui viennent tout d'un coup poser une question. Alors tout à coup on voit que les chrétiens ne sont plus des rabat-joie, mais ils sont des amenaires de grâce. Parce que j'habite les principes du royaume. Parce que je peux passer la porte et puis aller faire mes emplettes de l'autre côté et puis revenir dans ce monde, et je peux y aller autant de fois que je veux. Parce que Tante Doris m'accueille toujours avec le sourire. Parce que ma deux chevaux a sa place derrière le char des anges du Seigneur. Parce que je peux aller me remplir de ces principes du royaume, de cette logique qui nous fait tellement de bien. Parce qu'elle nous bouleverse. Seigneur, renouvelle mon intelligence, mais ne change surtout rien dans mes convictions. Ça ne va pas. Non, Seigneur, renouvelle mon intelligence, je suis d'accord de laisser mourir. Offrir en sacrifice, oui, offrez-vous vous-même en sacrifice.
Vivant.
Il ne s'agit pas de mourir. Sauf pour vivre. C'est le sacrifice. Ça va? Alors je voulais ce soir prendre ces éléments-là, et puis vendredi, alors on commencera à regarder quel impact ça peut avoir. Puis vendredi, je ne fais pas comme ce soir, je vous raconterai des histoires vendredi. Aussi. Parce que le but, c'est que les gens regardent les églises et qu'ils aient qu'une envie, c'est de venir s'y mettre à l'intérieur, se lever dans cette grâce qu'il y a entre nous, dans une qualité relationnelle qui les repose. Moi, je ne connais pas bien la France, mais je constate quand même que la qualité relationnelle, elle n'est pas meilleure que chez nous. Quand on entend comment se parlent les gens, comment se parlent nos politiciens, comment se parlent les gens dans la rue, quand on lit les journaux, quand on... Où est la qualité? Où est le repos? Où est la paix? La présence? L'arme offensive qui fait fuir l'ennemi et qui permet aux gens de venir chercher auprès de ceux qui sont des fils et des filles du roi les solutions dont ils ont besoin. La bénédiction dont ils rêvent. Le contact avec le Dieu vivant. Nous sommes ces contacts. Il n'y a pas besoin de proclamer l'évangile avec un haut-parleur en permanence. Convertissez-vous, Jésus va bientôt revenir, mais les gens, ils se ferment. Bien sûr qu'on veut leur parler de Jésus, mais on voudrait peut-être d'abord leur faire goûter un peu de cette bonté. C'est ce que faisait Jésus d'ailleurs. Il a commencé par guérir autour de lui plein de gens qui n'étaient même pas convertis. Il a même envoyé ses disciples en mission avant qu'ils soient convertis. Réfléchissez à ça. Répandre la culture du royaume pour attirer les gens au Dieu de paix et de grâce. Amen. Amen.
Je ne sais pas à qui je rends le micro. C'est toi le patron.
Merci Thierry. Donc, ce qu'on va avoir dans l'histoire, on peut simplement. On a entendu beaucoup de choses, hein, tout est enregistré. Donc, vous pourrez écouter et garder, et ça sera sur le site. Hein, vous pourrez tout reprendre ça. Ça vient, à mon avis, d'être écouté. En t'écoutant, j'avais ma prière et pour vous et pour moi-même c'est qu'on ait la paix. C'est qu'on puisse prier pour recevoir la paix de Dieu, la paix du roi. Voilà. Nous avons un roi merveilleux, et cette paix qui surpasse toute chose. Seigneur Jésus, je te remercie et vraiment je te demande de bénir Yannick et Thierry et de leur donner une bonne nuit de repos, qu'ils puissent se reposer au concret demain. Ce soit un temps de rafraîchissement spirituel pour eux. Et merci Seigneur pour la paix que tu nous donnes, la paix qui surpasse toute chose, qui vient de toi. Oui Seigneur, j'aspire et nous aspirons à être dans cette paix. Merci Seigneur de déverser sur nous, sur l'Assemblée, sur nos familles, sur nos conjoints, sur nos enfants, sur nos collègues, la paix de Dieu. Merci Seigneur. prière pour cette paix que tu déverses maintenant. Qu'elle puisse vraiment imprégner jusqu'au plus profond, comme une pluie bienfaisante, tous les parties de nous-mêmes, que nous entrions maintenant dans le grand nom de Jésus-Christ, dans la paix de Dieu. Amen. Soyez tous bénis, mes amis. À vendredi, alors. Attends. Thank you.